Chapitre 39. Enfin réunis à surplomb du monde, Nathan et tous ses compagnons se préparaient à défendre un continent, s'entraîner parce que le temps pressait. Si Outros découvrait la ville, les meilleurs guerriers de l'univers seraient incapables de contenir sa horde. En conséquence, rester caché était la meilleure défense. En route pour la côte, le général n'aurait aucune raison d'explorer les canyons qui s'étendaient sur son passage. Un avantage pour les résistants qui n'auraient rien à craindre pendant qu'ils travaillaient. Alors qu'ils prenaient l'air dans la grande grotte devant les archives, Nathan étudia le bâtiment des prophéties à l'autre bout du complexe. À demi fondu, ses fenêtres déformées et ses portes distordues, l'édifice faisait peine à voir. L'œuvre d'un apprenti idiot qui avait lancé un sort destructeur par hasard sans pouvoir le contrôler. Une preuve de plus que ces archives étaient mortellement dangereuses quand on ne savait pas s'y prendre. À l'idée que des érudits à peine mieux dégrossis que le crétin en question soient en train d'écumer les archives, le vieux sorcier sentit son estomac se nouer. Que se passerait-il si un imbécile déclenchait un sortilège dévastateur que personne ne saurait neutraliser? Verna, les sœurs de la lumière et lui-même devraient systématiquement tout vérifier avant que quelqu'un touche à une magie meurtrière. Mais ça, c'était l'idéal. Dubitatif, Nathan contempla le paysage bucolique à ses pieds. La ville et ses habitants s'étaient retirés du monde des millénaires plus tôt, au moment où Sulakan avait ordonné que toutes les archives magiques soient détruites. Bravant le tyran, des sorciers avaient emporté des grimoires et des rouleaux de parchemin pour les conserver ici, loin de tout et de tous. Aujourd'hui, ces trésors de connaissances serviraient peut-être à vaincre Outros. Nathan soupira de lassitude. Chaque fois qu'un ennemi rendait les armes, un autre apparaissait. Une idée déprimante, vraiment. Sauf si on inversait la proposition. Contre chaque menace, il y avait toujours eu des défenseurs comme Richard, Kala, Nietzsche ou lui-même, et à chaque occasion, il s'était montré plus fort que le mal. Cette fois, il en irait comme des précédentes. Après une dernière et délicieuse inspiration d'air frais et de solitude, Nathan s'en retourna vers le bâtiment principal, bourré de trop d'ouvrages pour qu'il soit possible de les lire tous. L'un d'eux contenait sûrement la solution, oui. Mais lequel? Dans la grande bibliothèque illuminée par des sorts très simples, du genre que les jeunes apprentis lancent pour s'entraîner, les érudits travaillaient devant des pupitres individuels ou le long des grandes tables collectives. Tous n'avaient qu'une idée en tête, trouver un sort inhabituel capable de neutraliser ou d'éliminer l'armée d'Outros. Alors que Gloria distribuait des grimoires à ses mémoristes afin qu'ils les lisent au cordeau, les érudits préparaient le travail des sœurs de la lumière, en sélectionnant les passages les plus prometteurs d'une montagne de volumes. Nathan fut impressionné par la concentration de ces gens. Scrutant des textes souvent jaunis par le temps, ils déchiffraient des langages presque oubliés, puis comparaient leurs notes avec minutie. Dans la salle, l'intensité de leur effort intellectuel semblait palpable. Verna étudiait un très long document déroulé sur la table principale. La novice Ambre et les sœurs Mab, Sharon et Arabella, assises près de leur dame abbesse, se passaient et repassaient des ouvrages en signalant les chapitres qu'elles trouvaient dignes d'intérêt. Dès qu'elle vit Nathan du coin de l'œil, Verna ne put s'empêcher de persifler. « Tu lis de si loin, vieil homme? Eh bien, tu dois avoir une vue hors du commun. »«
Très cher à l'action. Il faut parfois préférer la réflexion. Mais j'en ai terminé. »
Nathan prit place sur le banc près d'Ambre. Comme une maîtresse d'école, Verna poussa vers lui une pile de livres. « On ne les a pas encore consultés. Sur les 500 grimoires étudiés aujourd'hui, nous en avons sélectionné 15 pour études ultérieures. C'est un travail harassant. »«
Certes, mais 15, c'est beaucoup mieux que rien. »
Nathan ouvrit le premier livre, un recueil de cartes maritimes. De quoi se demander comment et pourquoi l'ouvrage était arrivé jusqu'ici. Cela dit, dans le contexte d'un combat terrestre, il ne serait pas très utile. Des heures durant, le vieux sorcier travailla d'arrache-pied, reconnaissant de ci de là un nom d'auteur sur une couverture. Pas mal de textes étaient rédigés dans l'alphabet d'Ildakar. Kelsa lui avait enseigné pendant leur trop courte amitié. D'autres, en revanche, dépassaient ses compétences linguistiques. Stoïque, il les remettait dans la pile avec l'espoir que quelqu'un saurait les lire. Plusieurs volumes étaient en Odaran, une langue qu'il maîtrisait, mais ce ne fut pas ça qui le fit sursauter de surprise.
« Ce livre-là, il est écrit dans le langage de la création. »«
Intéressant, ça. souffla la dame abbesse.
Il doit contenir des sorts très puissants. Tu peux le déchiffrer ?
Nathan prit la question pour un défi qu'il décida de relever.
Je suis versé en la matière, je l'avoue. Mais le langage de la création, c'est surtout une affaire d'interprétation.
Nathan plancha une heure entière sur le volume. Le temps pour les érudits et les sœurs de passer en revue et d'éliminer des dizaines de livres. De guerre lasse, le vieil homme dut s'avouer battu.
C'est trop compliqué, même pour moi. Je maîtrise assez bien les symboles et les emblèmes, et cela me dépasse. Impossible de cerner leur origine. Si Richard était là, ça changerait tout. Ce garçon est incroyablement doué pour jouer avec ses concepts.
Oui, confirma Verna. C'était déjà le meilleur apprenti qui ait jamais existé, et le seul sorcier de guerre venu au monde en plusieurs millénaires.
Elle referma un volume relié de cuir dont la couverture était tachée de sang.
Mais il n'est pas là. Nous sommes livrés à nous-mêmes face à tout ça.
Verna désigna les centaines de rayonnages lestés de livres et de rouleaux. Au-delà, on trouvait d'autres salles, des bâtiments annexes et même des remises où des coffres scellés pleins d'autres trésors attendaient qu'on les découvre.
Avec tout ce matériel, on devrait y arriver.
À condition de savoir par où commencer, très cher,
modéra Nathan. Seul, dans la chambre très austère qu'on lui avait affectée, Nathan sombra très vite dans un profond sommeil. La preuve, s'il en fallait, qu'il n'était pas bien remis du long voyage. Mais il n'y avait pas que ça. La mort d'Elsa lui avait brisé le cœur. Ensuite, Ildakar s'était volatilisé, et il ignorait si Bannon et Nitti étaient encore de ce monde. Sur son étroite couche, le vieil homme se tourna et se retourna. En rêve, il revint à Ildakar, mais des ténèbres occultaient ses souvenirs. Alors que son cœur battait de plus en plus fort, il s'enfonça dans ce songe toxique. En lui, quelque chose savait qu'il ne regardait plus avec ses propres yeux. Il se vit dans l'arène. Mais son corps n'était pas comme d'habitude, plus musclé et puissant. Passant une main sur son torse, il ne toucha pas son éternelle chemise blanche à jabot, mais un gilet en peau de panthère. Un félin du désert qu'il avait écorché de ses mains après l'avoir tué. Non, après qu'Ivan l'eût tué. Dans la poitrine de Nathan, le cœur du dresseur en chef menaçait d'exploser. Cruel de nature, Ivan adorait tourmenter et torturer les monstres qu'il dressait. Pour les soumettre, il ne reculait devant rien. Cela dit, il leur avait accordé une certaine valeur puisqu'ils étaient ses machines à tuer. Prisonnier d'un rêve dont il ne voulait pas, Nathan eut une poussée d'euphorie en se souvenant de l'ours de combat qu'il avait harcelé alors qu'il était en cage. Ces plantigrades étaient créés par des sorciers de chair comme André. Grâce à son don, Ivan contrôlait leur cerveau plus que rudimentaire. Des heures durant, il avait aiguillonné l'ours avec un bâton pointu jusqu'à le rendre foudrage. Un spectacle impressionnant, avec un fauve dont les griffes étaient capables d'éventrer un cheval. Dans son sommeil, Nathan essaya d'échapper à ce cauchemar. Ivan était mort, déchiqueté par ses propres monstres. Miraculeusement intact, son cœur avait permis au vieil homme de redevenir entier. D'accord, mais désormais, c'était son don et son cœur. Ivan n'avait plus rien à voir là-dedans. Pourtant, des lambeaux de souvenirs continuèrent à polluer l'esprit de Nathan. À son palmarès, le dresseur avait aussi les souffrances infligées à un taureau géant aux cornes fourchues et à un sanglier à pic aux défenses tranchantes comme le fil d'un rasoir. Avant de les lâcher sur de malheureuses proies dans l'arène, Ivan avait combattu chacune de ces créatures. Nathan plia les mains et capta dans l'air une odeur de poussière et de sang.
Trois panthères du désert. Encore jeune. Pour qu'elle attaque toute griffe dehors, il avait dû les houspiller pendant des jours. Bien entendu, il les avait neutralisés sans mal.
En rêve, Nathan vit les trois félins fondre sur lui, les crocs avides.
Couvert de sueur, il se réveilla. Dégoûté par les souvenirs que contenait son cœur, il s'avisa qu'une part de lui avait apprécié ses horreurs. Pas une vraie part, mais plutôt une souillure laissée dans son âme par Ivan.
Reste loin de moi. Oui, sors de ma tête.
Non sans mal, Nathan chassa l'intrus qui se réduisit à un murmure presque inaudible dans son esprit. Remué et certain de ne plus pouvoir se rendormir, le vieil homme alla s'asseoir à son petit bureau et ouvrit son livre de vie. Sur la première page encore blanche, histoire de consigner ce qu'il voulait immortaliser de sa vie. La sienne, oui, pas celle d'un sadique.